Bonjour, je suis Camille Faure et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Cazoo, le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Cazoo, c'est quoi? C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. heykazoo.com. Allez-y, c'est parti. Hello Tanguy, j'espère que tu vas bien. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de réparation, un sujet qui est au cœur du réemploi. Donc évidemment un sujet qui me tire à cœur chez Cazoo. Je suis d'autant plus contente que vous abordez le sujet par des secteurs qui sont souvent compliqués en termes de réparation. La mode et la maroquinerie en l'occurrence. C'est vrai que autant on voit bien comment réparer un lave-linge, autant c'est parfois plus compliqué de l'envisager pour un sac à main. Donc voilà, je trouve ça chouette qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Et pourtant, il y a un bonus réparation qui a été mis en place sur ces biens. Vous avez construit vraiment un super produit avec Prolong, donc j'ai vraiment hâte que tu nous en parles et je vais arrêter de monopoliser la parole. Je te propose de démarrer en te présentant et en nous présentant Prolong.
Salut Camille, merci en tout cas de me recevoir sur ton podcast qui a pas mal de sens pour moi parce que aussi la location est un sujet que je connais bien après avoir cofondé Lizzy en 2018, qui est la première boîte que j'avais montée avec une associée Anna qui aide les marques à lancer des business models de location et de vente de seconde main. Donc on a accompagné pas mal de marques comme Decathlon, Maje, Vaudé, Miet et j'en passe. Sur ces sujets d'usage circulaire et de réemploi. Moi, pour me présenter, donc, je m'appelle Tanguy Frécon. Je suis entrepreneur depuis 2018, basé à Paris. J'ai deux enfants. Et donc, après avoir monté Lizzy en 2018, qui est une boîte que j'ai quittée il y a un an et demi, j'ai souhaité aller faire un peu de recherche sur une autre thématique de l'économie circulaire, toujours appliquée dans le retail, qui était la réparation. Alors, moi, je le voyais bien que réparer des produits qui sont encore en possession par les marques, c'était déjà quelque chose de compliqué. Donc je me disais, si c'est compliqué pour la marque, pour le consommateur, ça doit être impossible. Et à côté de ça, on voyait qu'il y avait quand même une émulation du consommateur qui veut être plus responsable, des études qui expliquaient que le consommateur à l'époque était prêt à faire réparer. L'ADEME avait fait une étude en 2019, c'était 50% des consommateurs sont prêts à faire réparer leurs produits. Mais la réalité, elle était quand même autre. Hein. Les gens ne faisaient pas réparer, ou font peu réparer, parce qu'il y avait plein de freins, plein d'enjeux. Et du coup, j'ai lancé une exploration septembre 2022 pour rencontrer plein de consommateurs, pour comprendre qu'est-ce qu'ils achetaient, pourquoi ils entretenaient, comment ils entretenaient, pourquoi ils réparaient, pourquoi ils ne le faisaient pas, comment ils le faisaient pour ceux qui le faisaient, sur quel type de produit, est-ce qu'il y avait des histoires de prix, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient des produits qui étaient plus facilement réparables dans les imaginaires. Donc on a fait ça pendant 6 mois. Quand je dis on, c'est que rapidement en fait j'ai rencontré un startup studio américain qui s'appelle Imagination Machine, enfin franco-américain, qui a été monté par un américain et qui eux étaient vraiment experts dans la recherche utilisateur, la product discovery. Et on a décidé de s'associer assez rapidement parce qu'on partageait la même ambition d'impact et business. Qui était vraiment ce que je recherchais. Et on a appris plein de choses. On a appris que les consommateurs, effectivement, étaient en train de shifter, qui souhaitaient mieux consommer, en même temps pas nécessairement payer plus, mais que ça avait un sens de garder des produits plus longtemps, d'acheter peut-être un peu moins. Et on est remonté auprès des marques, qui avaient également toutes globalement dans leur feuille de route le sujet de la réparation. Bien que ce n'était pas, on va dire, quelque chose qui était en rang 1, qui était prioritaire, parce qu'aujourd'hui, la réparation, c'est encore perçu comme un centre de coût et pas un centre de profit. Et ça a été un peu, dès 2023, notre feuille de route de dire, OK, il faut qu'on trouve une solution, qu'on arrive à trouver une solution, un angle d'attaque, une proposition de valeur qui permette aux marques de se lancer tout en générant des nouveaux revenus, des choses qui soient rentables, en augmentant la fidélisation et qui va permettre également de se lancer dans l'économie circulaire, d'améliorer les indicateurs ESG et de se lancer dans cette nouvelle économie peut-être de la décroissance. C'est un mot qui fait peur, mais en fait, c'est là où on doit aller. On ne peut pas continuer à faire du retail comme on en fait, comme on a fait jusqu'à présent. Je pense que les marques le savent. En tout cas, toutes les marques qui ont mis des directions RSE en place, forcément, elles se font éduquer sur le sujet. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement gagner moins, mais on va produire moins. Ça, c'est certain. C'est la seule manière. Donc voilà, Prolong est né suite à toutes ces recherches-là. On a fait plein d'itérations dans notre proposition de valeur. Mai dernier, donc mai 2023, on a signé un premier client qui nous a dit, ça, c'est exactement ce dont on a besoin. Faites-moi un devis et on va co-développer une solution ensemble. Il se trouve que cette marque, c'est Fusalp, qui est un équipementier lifestyle, sportif, montagne, assez connu, en tout cas qui est en pleine croissance, qui avait été racheté par la famille Lacoste, et qui nous a fait confiance pour co-concevoir une solution qui leur permettrait, à l'échelle dans le monde entier, de proposer des services après-vente d'entretien et de réparation, avec une expérience client 5 étoiles, une réparation décentralisée, le plus en local possible, en proximité du client, pour des coûts qui soient réduits quand le client doit payer, ou alors réduits quand c'est des coûts variables payés par la marque. Et donc ça, c'était absolument top parce qu'on avait notre premier client. Alors ça ne suffisait pas pour se dire on crée une boîte, on crée un produit. Par contre, ça nous disait OK, on a un début de traction, maintenant ça sera peut-être plus simple. Et effectivement, assez rapidement, on a réussi à signer une deuxième marque que je ne peux pas citer encore, mais qui est un groupe qui fait de la chaussure, un groupe français, un des leaders français, très impliqué sur ces sujets de réemploi, de Made in France. Et donc avec cette marque-là, ce groupe-là et Fusalp, on a co-conçu la plateforme en 2023. J'ai à ce moment-là aussi onboardé mes associés, quelqu'un, Sarah, qui travaille au product, qui est CPO. Thibaut, qui également lui travaille sur la partie plutôt développement, qui est notre CTO, et Henri, qui est un expert en data science, qui lui gère toute la partie opérationnelle, remontée de données, parce qu'il y a un gros enjeu sur la data, la remontée de données, sur que deviennent les produits une fois qu'ils ont été mis en marché. Et ensemble, donc on a créé notre MVP en 2023, onboardé deux marques supplémentaires et lancé la plateforme en début d'année. On est le 2 février aujourd'hui. On a effectivement lancé la plateforme en début de semaine chez Fusalp. On est un peu né fin dernière semaine de janvier parce qu'on a également annoncé notre levée de fonds qu'on a réalisée à Noël d'1,5 million. On a également lancé notre site internet. Donc on était très sous le radar, très en recherche en exploration en 2023, 2022 et 2024. Voilà, on est live avec 2 clients, bientôt 4 et beaucoup plus j'espère d'ici la fin d'année. Pour aider vraiment les marques, cette mission, c'est de rendre la réparation aussi simple que l'achat de produits neufs pour le consommateur final. Hier, on parlait à une marque encore qui fait des chaussures de luxe, plutôt femmes, basket, mais aussi des chaussures à talons, pour ne pas citer le nom de la marque, qui expliquait eux proposent de la réparation depuis finalement très longtemps. Ils ont racheté des cordonneries pour proposer ce service-là à leurs clients. Mais les clients, en fait, ne le savent pas parce qu'aller dans une cordonnerie, c'est passé d'époque. En tout cas, les jeunes ne vont plus dans les cordonneries, ne vont plus chez les retoucheurs. Ils rachètent et c'est un vrai problème parce que c'est vraiment un sujet d'expérience client. Il faut rendre la réparation plus simple, plus digitale, plus omnicanal, reprendre les codes en fait du e-commerce et ramener ça pour faire réparer, entretenir. On fait aussi du nettoyage pour les marques. C'est comment en fait la marque accompagne son client dans la vente de nouveaux services qui va lui permettre de prolonger la durée de vie de son produit, de garder son produit plus longtemps et finalement de faire des économies. Voilà. Donc c'est un peu la genèse de Prolong.
Merci. Du coup, les enjeux et la façon dont vous avez abordé le problème est super clair. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le concret de ce que c'est que votre produit en fait? Qu'est-ce que vous pluguez chez vos clients? Quelle est votre proposition de valeur du coup pour eux comme tu disais, dans cet enjeu de l'expérience client finalement et d'apporter cette solution de la prévente dans toute l'expérience client de la marque.
Absolument. Donc nous, on édite un logiciel, ça, c'est une plateforme qu'on a appelée la Care and Repair Management Platform, qu'on va venir déployer sur le site e-commerce de la marque et sur ses systèmes d'encaissement. Et ça va permettre au consommateur final de la marque de pouvoir aller à n'importe quel moment en ligne pour faire un diagnostic. par rapport à un problème qu'il peut avoir avec un produit. Donc un zip qui est cassé, une tâche qu'on n'arrive pas à faire partir, un bouton qui a sauté, d'obtenir un devis, donc un prix, avec un délai, et de pouvoir activer la réparation depuis son canapé. Ce parcours-là, il peut également le faire en magasin, parce qu'il se trouve que ça peut être auprès d'une marque, il y a plein de boutiques, on a une boutique en bas de chez soi, on prend son produit, on va en magasin, ça va permettre au vendeur de faire le diagnostic pour le compte du client avec lui et de lui exposer une solution. Et d'exposer la même solution que s'il l'avait fait tout seul en ligne. Donc il y a aussi un sujet d'homogénéiser la solution de réparation possible derrière. On avait fait un test à Singapour avec une marque de joaillerie sur un problème sur un bijou. Ils avaient fait le test, ils étaient allés voir pour voir s'il y avait une réponse qui était commune entre les trois magasins. Sur les trois magasins à Singapour, il y avait trois réponses différentes. On ne peut rien faire pour vous, désolé. L'autre qui disait, je vais voir, je vais garder le produit, puis on vous rappelle. Et l'autre qui a dit, on peut vous le faire, ça prend tel temps et ça va vous coûter à peu près ce prix-là. Donc, c'est juste pas possible et c'était une marque de luxe. Donc, il y a un sujet pour les magasins, il faut les équiper avec une espèce de nomenclature de réparation pour que la réponse soit toujours la même et l'expérience qui soit toujours aussi bonne. Et on peut commencer en ligne, terminer en magasin son parcours. Donc, on va proposer ça et ça va derrière permettre au consommateur, à la marque, de dispatcher le problème vers un réparateur. Alors, un réparateur interne, on vient digitaliser des centres de réparation internes. C'est le cas de Fusalp, ils ont leur atelier à Annecy avec un vrai savoir-faire. Mais la problématique, c'est que quand on a une marque globale, cette réparation, on ne peut pas la faire toujours à Annecy. Quand on est à New York, il faut mieux la faire à New York. Et ce qui se passe aujourd'hui, la réalité, c'est que les marques qui sont globales et qui n'ont qu'un centre de réparation dans leur pays natal, c'est qu'elles font des avoirs et elles échangent des produits avec des produits neufs. Ce qui, évidemment, n'a pas de sens économique, écologique. Donc, notre volonté, c'est d'aller digitaliser des centres de réparation dans le monde entier. Aujourd'hui, on en a 200, qui sont connus pour la plupart des marques, parce que les magasins se trouvent qu'ils ont leur petit cordonnier, leur petit réparateur de proximité avec lequel ils ont l'habitude de bosser. Ce qui est rigolo, c'est que le siège, eux, ne le connaissent pas. Donc, ils ne savent pas combien de réparations fait ce réparateur par an, sur quel type de produit, avec quel niveau de qualité, avec quel type de pièces détachées, sur quel type de machine. Enfin bref, il y a une vraie déperdition de valeur, de data. Alors, l'idée, ça va être de reconnecter tout ça, tout ce petit monde, le consommateur avec son problème, la marque et les différents réparateurs pour contrôler l'expérience, remonter de la donnée sur que deviennent mes produits une fois que je les ai vendus, quels sont les défauts récurrents, à quel moment du cycle de vie les produits commencent à être réparés. Donc ça, c'est de la donnée qui est ultra précieuse, que les marques n'ont pas. Et on va permettre donc aux équipes magasins de gérer ça, aux équipes SAV, donc en back-office, de gérer leur flux de réparation, et aux équipes produits d'avoir cette remontée de données sur la qualité des produits, les différents défauts, pour qu'elles puissent mieux éco-concevoir leurs produits demain, les vendre un peu plus cher. Et c'est primordial, alors pour une boîte de luxe forcément un peu moins, mais on parle à des marques qui font pas de la fast fashion, mais on va dire vraiment de l'entrée de gamme de bonne moyenne qualité. Leur enjeu, c'est pour tenir face à ce qui se passe en ce moment dans le monde du retail, c'est compliqué. On doit monter en gamme, on doit monter en prix surtout, et pour ça, on doit le justifier par des produits plus durables. Et du coup, on va vendre des nouveaux services qui vont nous permettre d'intégrer nous, ce qu'on a appelé le cercle vertueux de la durabilité, qui est je vends des produits, j'accompagne mon client pour que ce produit dure plus longtemps. Du coup, je suis perçu comme une marque responsable, je collecte de la data, je fais des produits plus responsables, que je vends plus cher, etc. Et c'est ce cercle-là que toutes les marques doivent intégrer. Alors, peut-être pas les marques d'ultra fast fashion, bien sûr, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye, nous, de pousser chez nos clients.
Ok. Donc, en gros, pour je reprends avec mes mots et tu me dis si j'ai bien compris. Tu as donc cette brique qui est finalement la brique de devis. Ou en gros qui va s'intégrer soit sur le site internet, soit dans le logiciel magasin pour que ce soit fait soit par le consommateur lui-même, soit par le vendeur qui va du coup, tu vas saisir tes informations, ton produit, ton problème et ça te sort une estimation de prix ou carrément un devis précis. Et derrière, ça va jusqu'à potentiellement t'expliquer comment aller déposer ton produit, enfin selon le cas, de sortir une étiquette de transport ou voilà. Et ensuite, il y a l'aspect donc mise en relation finalement. De toute façon, c'est forcément nécessaire, j'imagine, pour le devis, mais ou pour la phase en tout cas de passage en réparation. La prise de devis, elle pourrait exister par elle-même quasiment, en fait, si t'as les prix standardisés. Mais en gros, vous avez aussi cette notion de mise en relation avec les réparateurs. Et c'est là la question que je me pose, tu t'y as un peu répondu, mais du coup, c'est pas vous dans votre travail, il n'y a pas, comme c'est le cas pour certaines marketplaces, d'aller en gros référencer enfin, tu vois, tous les réparateurs de France et de Navarre. Vous travaillez, vous, plutôt sur la base de réparateurs qui travaillent déjà avec les marques et vous les onboardez dans votre produit.
Ouais, tout à fait. On a une approche un peu duale, mais les réparateurs aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'on commence à, les premières marques avec qui on travaille sont des marques qui font déjà de la réparation, et depuis assez longtemps, hein, pour certaines, mais qui aujourd'hui savent très bien qu'elles ne le font pas bien, qu'elles ne capitalisent pas sur leur outil industriel pour le faire mieux, plus vite, faire plus de flux, potentiellement même proposer leur outil à d'autres marques. Donc il y a un sujet de faire mieux et de scaler et d'internationaliser la réparation. Donc effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient digitaliser d'abord leur propre atelier de réparation. On vient parler à tous leurs magasins, parce que c'est des gros réseaux hein, plutôt. Et il se trouve que chaque magasin, en règle générale, a un cordonnier, un réparateur de proximité, de confiance, que le siège ne connaît pas et que du coup, le siège va pouvoir qualifier. Sur ces réparateurs-là, on a à peu près 60% qui vont devenir connectables sur la plateforme.
Ok.
Les 40% qui ne se connectent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas digitalisés, ils ne veulent pas se digitaliser, ça c'est intéressant. Et ce qu'on explique nous aux réparateurs de nos clients, c'est qu'on n'a rien à leur vendre, c'est gratuit. On va les aider à être connectés non seulement à leur marque avec qui elles ont l'habitude de bosser, mais avec tous nos futurs clients, qu'elles vont être payées tout de suite et pas 30 jours ou 60 jours fin de mois, et qu'elles n'ont plus de factures à émettre auprès de la marque parce que tout est automatisé. Donc on vient vraiment en plus faciliter la vie de ces gens-là qui ont besoin d'être aidés parce que c'est très saisonnier, souvent la réparation. On a des réparateurs qui voient pas le jour pendant des mois, par exemple en hiver sur les marques outdoor, et qui l'été, malheureusement, c'est compliqué. Du coup, il y a du churn dans les équipes, on revient l'hiver, elles n'ont plus personne. Donc on va les aider à récupérer du flux récurrent, à être bien payés, mieux payés. On veut ubériser l'expérience client. Ça, c'est hyper important. Par contre, on ne veut surtout pas ubériser les réparateurs. Les réparateurs sont des gens indépendants qui ont des grilles tarifaires qui sont les leurs, que les marques doivent respecter et ils sont payés directement. Donc le client paye et en fait le réparateur est payé immédiatement. Il n'y a pas d'ubérisation de quoi que ce soit. On est juste là, nous, pour les aider ces gens-là.
Ok, oui, donc en fait, il y a aussi vraiment un vrai service que vous leur apportez, plus qu'un service, parce que sur le sujet de trésorerie, c'est même hyper clé. Ok, super clair. Et alors, du coup, j'ajoute là-dedans, dans le sujet, un sujet que tu as évoqué en intro, qui est le bonus réparation, ou que j'ai évoqué, je sais plus, qui est un peu le truc dont tout le monde parle en ce moment, mais que personne ne comprend, si je schématise. Comment est-ce que vous intégrez ça? Comment est-ce que vous simplifiez la vie du réparateur, de la marque, du consommateur sur ce sujet du bonus réparation, bon, qui est très franco-français, mais...
Alors la bonne nouvelle, c'est que avec Prolong, les réparateurs n'ont pas besoin d'être labellisés Paris Fashion, parce que et quand je dis bonne nouvelle, c'est que souvent, malheureusement, même si c'est génial et pour eux c'est une vraie super opportunité, elles ont du mal pour la plupart parce que il faut être un minimum digitalisé pour pouvoir se labelliser quand même, un minimum avoir un email. Et en fait, on voit des workshops, des ateliers qui ne veulent pas avoir d'email. Et bon, après malheureusement, on peut pas faire grand-chose pour eux, hein, mais c'est la réalité du terrain. C'est des gens qui ne sont pas digitalisés ou alors très peu pour la plupart. Et ça veut dire ajouter à une lourdeur administrative malgré le fait que les premiers retours du bonus de ceux qui sont équipés sont hyper bons. Il y a une augmentation des paniers moyens de réparation parce que quand on vient faire réparer sa chaussure, on fait réparer plus de choses et il y a plus de monde. Donc je pense qu'elles ont tout intérêt à le faire. Mais l'avantage, voilà, c'est que quand on bosse avec les marques, c'est la marque qui va se labelliser
Ok.
et du coup, elle va pouvoir faire bénéficier à ses propres clients du bonus et du prix, du coup, décrémenté du bonus réparation. Donc, on rend la réparation bien plus abordable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, je pensais, quand on a créé Prolong, je pensais vraiment qu'on allait bosser avec des marques plutôt haut de gamme, premium, luxe. Et en fait, on se retrouve à se faire contacter par des marques qui sont plutôt prix entrée de gamme, moyenne gamme, plutôt très grand public, parce que grâce au bonus réparation, réparer un zip sur une veste de 60 euros, ça a un sens. Parce que là où ça coûtait, je dis n'importe quoi sur les prix, hein, là où ça coûtait peut-être 25 euros hier, bah grâce au bonus, ça ne coûte plus que 15 euros. Et du coup, ça a un sens, parce que si on répare son zip, on garde sa veste plus longtemps, et du coup, je vais faire des économies, parce que je vais décaler l'acte d'achat d'un produit neuf. Il y avait cette étude qui était sortie d'Hélène MacArthur en 2021, je crois, ou peut-être 2020, peu importe, mais qui expliquait que quand on répare un produit textile, on prolonge en moyenne sa durée de vie de 9 mois. Donc, on décale son acte d'achat globalement de 9 mois en moyenne sur du textile. Et en plus de ça, au passage, on va réduire son impact, l'impact environnemental du produit entre 20 et 30%. Donc, en fait, tout le monde, c'est bénéf pour vraiment tout le monde. Et à côté de ça,
Ouais,
c'est.
mais c'est là où ce que tu dis est super vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même, surtout depuis 2 ans, on est dans quand même une période d'inflation forte et de contraintes très fortes sur le porte-monnaie des Français et en général de tout le monde. T'as ce sujet de prix qui est hyper important. Je sais que nous, dans l'électroménager, on dit souvent que à partir du moment où la réparation coûte plus de 30% du prix neuf, les gens en fait
C'est
préfèrent
pareil
racheter du neuf.
dans le textile. C'est
Ouais,
pareil dans
voilà,
le
tu vois, je
textile.
pense que ce ratio, il doit sans doute être vrai, quelle que soit finalement la nature du bien. Et ça se comprend finalement, tu vois. Alors qu'effectivement, comme tu le disais, c'est un non-sens en réalité, d'un point de vue écologique et même économique. Donc
C'est clair.
c'est là où c'est bien que vous aidiez aussi à intégrer ce bonus réparation, parce que c'est vrai que les retours que tu lis dans, tu vois, les médias, etc., ou même moi, quand j'interroge, tu vois, mon cordonnier, je sais pas comment ça marche, en fait, non, il te raconte que t'es pas concerné, alors que toi, tu sais, parce que t'as lu le blog, que si, sur ce type de réparation, tu pourrais en bénéficier, mais en réalité, lui, ça le saoule de faire les démarches, et donc, enfin, voilà, et donc, moi, je sais que personnellement, tu vois, j'en ai pas encore bénéficié, alors que pour moi, c'est un geste intégré depuis très longtemps, de faire réparer mes chaussures, d'aller changer, comme tu dis, un zip, faire recoudre un accro, etc. C'est quelque chose que je fais, mais pour l'instant, j'ai encore vu aucun artisan avec qui que je vais voir, tu vois, depuis toujours, parce qu'ils sont dans mon quartier, qui me le propose, en fait. Je le saurais pas,
Il y en a
je
de plus
savais
en
même pas que
plus.
ça existe.
Il y en a de plus en plus. Hein. C'est quand même tout nouveau. Enfin, le bonus a été officiellement lancé en novembre 23. Les équipes de ReFashion qui portent le sujet font un excellent, enfin un boulot vraiment dingue d'évangélisation. Mais c'est laborieux. Hein. On parle d'une population qui est vraiment peu digitalisée. Moi, ça me fait souvent penser avec la restauration quand la fourchette est arrivée. Ils avaient le même problème. Les restaurateurs, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas ouais, peut-être un email alors. Mais, encore, pas de site internet, pas de page Google, enfin, c'était très compliqué. Et ils se sont un peu battus pour expliquer que en fait, c'était pas contre eux, mais pour eux, la digitalisation. Et on connaît voilà, ce qui s'est passé après. Hein. Maintenant, c'est tous les restaurateurs sont digitalisés, en bénéficient, et c'est un vrai avantage d'avoir accès au digital. Donc, c'est un travail qui est laborieux, qui est long, c'est un vrai sujet d'industrie. Et nous aussi, donc on a notre part de responsabilité. On parle à plein de retoucheurs, de cordonneries qui travaillent aujourd'hui avec les boutiques de nos clients et on essaye de les incentiver par ailleurs à se faire labelliser parce que ils auront enfin, le retour est colossal pour eux en fait. Hein. C'est un
Ouais,
vrai.
c'est clair. Mais le parallèle avec la fourchette est intéressant parce que tu vois, in fine, ils ont aussi réussi, ça a pris du temps, mais parce qu'ils ont apporté, c'est ce que tu disais aussi toi en intro, en fait, un vrai bénéfice, en
Les
fait, in
valeurs, ouais.
fine, ils ont fait gagner du temps sur la gestion des réservations, sur enfin tous les services qu'aujourd'hui propose la fourchette au sens large. Alors à l'origine, c'était vraiment, je vous génère du trafic sur des jours où vous avez moins de clients, et aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus la gestion des résas, la diminution du no-show. Et de la même manière, vous, finalement, vous apportez un truc où on va vous alléger. Alors oui, il va y avoir un petit temps de passage au digital, mais derrière, en fait, on vous allège toutes les tâches administratives un peu pénibles, de gestion des factures, de déclaration pour bonus réparation, etc.
Ouais,
Enfin, si j'ai bien compris.
et on a une approche en plus qui est très. On ne veut pas faire du fort nécessairement du quanti en fait. On est vraiment sur la quali. On cherche vraiment les meilleurs artisans pour nos clients parce que c'est ça aussi qui fera que l'expérience sera excellente pour le client final. Certes, l'expérience, on peut la rendre digitale, on peut ubériser l'expérience. Par contre, le savoir-faire derrière, c'est des vrais artisans, c'est des vraies mains, des vrais gens qui ont des savoir-faire incroyables et notre volonté, c'est vraiment d'aller sourcer les meilleurs, d'aller d'avoir un maillage qui soit quand même dense et global. Mais on préfère avoir des réparateurs vraiment top qualité, plus que des milliers, des millions. C'est pas notre objectif. Il y en a des millions dans le monde, hein, mais donc on fait un peu le moins mais mieux. Mais finalement, en même pas quelques mois, on a déjà 200 réparateurs en base. Donc c'est top. Et on est sur 8 pays aujourd'hui, mais on a des clients là qui arrivent avec un déploiement sur 30 pays. Donc c'est excitant et on va créer en fait assez rapidement, je pense, le réseau le plus dense de réparateurs dans le monde. Et on veut animer cette communauté avec nos marques. Et on a créé du coup un label qui s'appelle We Care, We Repair, qui va être un label pour les marques et pour les réparateurs, pour pousser à la consommation plus responsable, à la réparation. Et ça, c'est des choses qui arriveront, je pense, au fil de l'eau. En tout cas, on a déposé le nom, tout ça, et c'est excitant. C'est des choses qui, moi, en tout cas, m'animent.
Ouais, c'est clair. Puis t'imagines après plein de choses que tu peux faire en termes de partage de connaissances. Enfin, voilà, ils sont absolument géniaux. Parce que sur certains types de réparations, il y a des savoir-faire qui, je pense, se perdent beaucoup, tu vois.
Ouais, donc, il y a un sujet là-dessus sur le transfert de compétences qui est énorme, et c'est une des briques qu'on doit développer dans les prochains mois sur, nous on appelait la Care & Repair Academy, qui est en gros une marque qui travaille avec un réparateur, va collecter de la data sur la qualité des prestations. Et à un moment donné, elle va pouvoir lui pousser du contenu de formation pour que le réparateur puisse monter en compétence sur un certain nombre de choses. Peut-être demain proposer plus de services du catalogue Fusal, parce que voilà, il y a un besoin de formation, et donc il y a un vrai savoir-faire que portent souvent les marques. Pas toutes, hein, d'ailleurs, c'est marrant, mais pour le cas de Fusalp, c'est le cas. Il y a quelqu'un en entrepôt chez Fusalp qui, depuis plus de 20 ans, fait de la réparation de produits outdoor, donc un vrai savoir-faire. Et l'idée des équipes Fusalp, c'est d'en faire des tutoriels, de formation, pour pouvoir envoyer ça à tous les réparateurs dans le monde, pour assurer une qualité en plus 5 étoiles, mais qui, du coup, va être transmise, et c'est assez primordial.
Ouais, c'est top. Alors, je reviens sur un sujet que tu as évoqué en début de discussion, qui est le fait de transformer la réparation d'un centre de coût en un centre de profit. Est-ce que tu peux, du coup, là je voudrais aborder le sujet du modèle économique aussi bien pour la marque que pour vous. Voilà, comment est-ce que vous rémunérez, et comment est-ce que tu démontres à la marque justement que ce sujet n'est plus un centre de coût mais un centre de profit ?
Alors, c'est plus un centre de coût parce que, enfin, à partir du moment, le challenge numéro un, c'était de capter la data pour savoir combien leur coûte une réparation sous garantie aujourd'hui. Et ça, elles ne le savent pas. Globalement, elles n'en savent rien. Souvent, c'est remplacer le produit par un produit neuf, un avoir. Donc, c'est compliqué. Et quand ils font de la réparation, les factures se perdent. Il n'y a pas de process ultra bien fait pour collecter cette data. Donc la première mission, nous, c'est de savoir comment ils réparent aujourd'hui, comment ils gèrent leur réparation ou leur réparation sous garantie, combien ça coûte, et du coup de dire, nous, ok, maintenant on sait combien ça coûte de transporter un produit d'un point A à un point B en fonction de vos contrats que vous avez avec les transporteurs, on sait combien prend votre réparateur partenaire, on sait combien de temps passe votre atelier pour réparer tel ou tel type de produit, du coup, on sait combien ça coûte. Et du coup, la marque, libre à elle de dire, moi, je veux marger à 1, 2, 3, 10, 20%, peu importe. Même si aujourd'hui, les marques sont plus dans une logique de dire, ça peut me rapporter de l'argent, c'est bien, mais en tout cas, il ne faut pas que ça m'en coûte. Okay. Donc, en fait, on est dans cette logique-là. Ou alors même, on parle à certaines marques, plutôt premium pour le coup, qui se disent, moi, je vais offrir les réparations à vie, parce que je suis une marque premium et que ça fait partie de mon service et du prix du coup de vente. Et du coup, mon enjeu, c'est de réduire les coûts une fois qu'une réparation est faite, et d'avoir des coûts variables qui soient le plus faibles possible pour que ça reste quand même quelque chose de viable. Donc, on a…
C'est un enjeu, en fait, de déjà juste mettre les bons chiffres sur…
Oui, un gros enjeu de data, et c'est pour ça que moi, je me suis associé notamment avec Henri, qui est expert en data science. C'est qu'il y a un gros enjeu de collecte et de traitement de données sur cette partie business model. Donc, la marque… finalement, propose le prix qu'elle veut, okay, avec la marge qu'elle veut. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est quand même d'être globalement at cost pour qu'elle puisse proposer ses nouveaux services, fidéliser. Elle voit quand même l'avantage, l'intérêt de fidéliser. Quand on regarde les marques qui, aujourd'hui, dans le retail, proposent de la réparation, ce n'est pas les marques qui vont le plus mal. Toutes les maisons de luxe, Decathlon, Patagonia, aujourd'hui, ils proposent de la réparation quasiment gratuite. Et c'est des marques qui cartonnent et qui continuent de cartonner parce que c'est dans leur ADN maintenant et c'est là où va le marché. Et donc, ils sont assez early adopters sur le sujet. Nous, notre modèle économique, on est un SaaS, donc on vend, on loue notre logiciel aux marques pour les équipes magasins, pour les équipes SAV. Voilà. Et c'est un coût qui va être incrémental en fonction du nombre de pays déployés, de magasins déployés. Donc, c'est une vraie solution omnicanal. Et on prend une petite commission sur les transactions également, payantes, donc pas sous garantie, payantes, pour couvrir tous nos frais
bancaires,
de traitement de paiement, de traitement également de transport, parce que imprimer des étiquettes de transport, c'est un coût et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont couvertes par un petit pourcentage et qui alignent aussi l'intérêt projet. C'est-à-dire qu'une marque ne va pas payer très cher au début. Par contre, plus elle va faire de réparation, plus ça va lui coûter cher. Il y a un alignement du coup des intérêts à faire marcher le projet qui est assez sympa.
Ok, ça marche, super clair. Donc du coup, si je reviens côté consommateur, finalement, ce qui va changer pour lui, c'est déjà peut-être c'est juste de voir que c'est possible de réparer, ou peut-être avant c'était même pas affiché sur le site, et ensuite c'est de lui simplifier la vie en fait, c'est potentiellement de
simplifier la vie, lui proposer les bons prix, parce que grâce au bonus réparation, il va y avoir des bons prix, sûrement plus intéressant que s'il allait faire lui-même la réparation en bas de chez lui.
Ok.
Et vraiment, ouais, l'expérience sans couture, mais le prix, tu le disais tout à l'heure dans l'électronique, c'est le prix reste le critère numéro un. Il faut proposer des prix qui aient un sens, sinon les gens ne réparent pas. Et donc le prix, vraiment super important, c'est de proposer le bon prix. Et tu peux proposer le bon prix en réduisant le transport, notamment, en faisant bénéficier ton client du bonus réparation. Et c'est exactement ce qu'on propose. Donc en ayant un maillage assez dense de réparateurs dans le monde, tu vas faire de la vraie économie circulaire de proximité. Donc en plus de faire moins de transport et du coup de moins polluer, tu vas en plus payer moins cher forcément. Parce que potentiellement, c'est un réparateur qui va venir récupérer les produits en fin de journée, faire sa petite tournée prolongue pour récupérer les produits chez les différents magasins. Et du coup, y a une mutualisation du coût de collecte qui est hyper intéressante.
Une tournée qui doit déjà presque déjà exister d'ailleurs, parce que tu vois, quand tu vas en magasin, enfin moi, tu vois, qui suis une personne relativement petite, j'ai jamais acheté un pantalon de ma vie sans le faire un ourlet. Tous les magasins te proposent de le faire, et j'imagine que c'est un peu les mêmes personnes qui font les ourlets et qui réparent
On propose la gestion. En fait, on veut être la solution en fait SAV pour les marques, pas simplement pour l'entretien, pour la réparation, mais on va aussi permettre à des marques de proposer de la personnalisation, de proposer de l'altération, enfin de faire faire du sur-mesure, enfin de la demi-mesure. On va permettre de faire du pressing, on va permettre de faire de la réparation effectivement. Et c'est vraiment tous les services que le client va pouvoir. Auquel le client va avoir accès au moment où il achète le produit, juste au moment où il va même s'en séparer. C'est-à-dire qu'on va être capable de lui dire ton produit, il n'est plus réparable, tu l'as déjà réparé deux fois, c'est le moment de te rééquiper, par contre ne jette pas ton produit, tu l'envoies avec ce bon de livraison ou tu le déposes en magasin, nous on va le faire retraiter dans la bonne filière, le séparer et pour te féliciter, on va te donner un bon d'achat, comme ça tu viens te rééquiper chez nous. Donc c'est un vrai moyen de rester en contact avec le client, d'augmenter la customer lifetime value, donc l'argent que va dépenser ton client chez toi en lui proposant des nouveaux services, et d'augmenter en parallèle la product lifetime value, donc la durée du produit. Donc tu vas vraiment, et que génère l'argent que tu génères ce produit-là. Donc tu vas vraiment un peu finalement réconcilier la customer lifetime value et la product lifetime value, qui est un truc qui généralement vit un peu de son côté.
Ouais, carrément. Top. Écoute, c'est super clair pour moi. Et j'ai envie de te poser une question du coup sur les enjeux que vous avez en ce moment. Bien sûr, faire rentrer de nouvelles marques, etc. Mais quels sont pour toi, de façon assez macro, les freins à lever pour convaincre toutes les marques que vous avez envie de convaincre de passer de vous intégrer, ou en tout cas de se soucier de ce sujet de réparation?
Alors les freins, en 2024, le frein, il y a un frein conjoncturel. Les marques, pas se mentir, hein, pisse un peu le sang. Donc il faut réussir vraiment à les éduquer sur le sujet, leur faire voir un peu plus que demain, mais peut-être après-demain et après-après-demain, pour leur montrer que c'est un sujet qui va être transformant, structurant, qui va avoir un vrai impact et qui a un vrai retour sur investissement. Donc un sujet d'éducation pour prouver l'urgence de déployer des services de care and repair. Et auprès du consommateur, un sujet de communication, donc d'accompagner les marques après, une fois qu'elles ont lancé le service, sur de la com, sur du marketing, pour qu'elles expliquent à leurs clients que ça existe et que du coup, il y a du flux. Parce que lancer un pilote, sans communication, personne ne fera réparer, ce sera déceptif pour la marque, pour nous. Donc, c'est un vrai enjeu, pardon, de proposer, ça de manière très proactive aux consommateurs, de les accompagner. Maintenant, on sent qu'on est quand même sur une lame de fond assez importante. On reste des projets assez stratégiques pour les marques. Et je pense qu'elles attendaient globalement toutes des solutions comme les nôtres. Et il y a plein de solutions plus ou moins concurrentes qui arrivent aussi là, sur le marché. Et c'est trop bien parce qu'on règle un problème d'industrie qui est colossal. On ne pourra pas le faire tout seul. Donc il faut qu'il y ait le plus d'acteurs possible. Et qu'on travaille ensemble pour vraiment déployer ça à l'échelle dans le monde entier et aider ces réparateurs qui sont indispensables, hein, encore une fois, dans ce maillage et pour faire vraiment de l'économie circulaire de proximité.
Ouais, non, c'est sûr. Parce que tu disais tout à l'heure sur la marque de joaillerie en Asie, là, à Singapour, qui avait fait le test sur trois magasins différents. Je crois que je te l'avais raconté quand on avait échangé avant d'enregistrer, mais moi j'ai eu des expériences comme ça, tu vois, sur des marques, pas forcément de luxe luxe, mais en tout cas très premium, de sentir vraiment des vendeurs complètement paumés sur la façon de me répondre, alors que je venais juste leur dire, mais en fait, je suis prête à la payer, la réparation, mais juste, je ne sais
Bien
pas
sûr.
chez qui aller, donc je viens vous voir, vous, parce que c'est chez vous que le collier, en l'occurrence, a été acheté. Je voudrais juste réparer une petite maille de mon collier qui a été cassée parce que mon fils a tiré dessus, et je tiens à ce collier, et vraiment, je les sentais, ils se sont mis à trois pour essayer de réfléchir à la façon dont ils allaient traiter ma demande, qu'encore une fois, j'étais prête à payer, mais simplement, voilà, c'est
Ouais,
pas
qu'on te
des...
dise le prix, combien de temps ça prend. Et c'est un
Combien de temps
sujet
ça prend,
de
si c'est
formation.
faisable, tu
Il y a un
vois.
vrai sujet de formation, les personnes en magasin, même si elles sont formées, il y a un churn qui est tel dans les boutiques que ben forcément, il y a besoin d'un espèce de support de formation, un support technologique pour ben, pouvoir accompagner le client. Et c'est pas grave si le vendeur sait instinctivement pas combien ça va lui coûter, combien de temps ça va prendre, si c'est réparable. Mais en revanche, il a un outil maintenant qui est à sa disposition qui permet en quelques minutes d'exposer au client une solution. Et c'est de trouver une solution à tous les problèmes. Et la solution, ça peut être de dire, bah, il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas de solution. Par contre, voilà, la solution, c'est qu'on va te donner un bon d'achat pour te rééquiper. Ton produit, on va le garder. Ou alors, on va te donner un conseil pour pouvoir le recycler ou l'upcycler. Ou en tout cas, pour qu'il ne termine pas dans une décharge. Et ça, c'est l'expérience sans couture 5 étoiles. C'était Alexandre Fauvet, actionnaire et ancien CEO de Fusalp, qui nous disait ça. Un client qui vient en SAV, ça peut paraître terrible, sauf que si tu traites son problème avec une expérience de dingue, ton client, en fait, tu le fidélises à vie. Il a plus aucune raison d'aller voir ailleurs. Il vient avec un problème parce que, il a cassé un zip pendant sa session de ski et qu'il vient te voir en fin de journée en station et que le lendemain matin, tu lui ramènes en bas des pistes sa veste réparée avec un café. Ton client, il est
Bah, il
pique
est au max,
d'albanie.
ouais, bien sûr. Ouais, demain, c'est un ambassadeur. Et puis, en fait, même rien que le fait qu'il vienne, tu pourrais le voir comme un problème. Et en fait, ça veut dire qu'il tient à ce produit. Sinon, il l'aurait déjà acheté, en fait. Donc,
Ah mais c'est pour ça
ouais,
que
non.
le SAV, c'est un pilier stratégique des marques. Souvent, c'est perçu comme. C'est un peu mis au placard, mais moi, je pense que ça devrait être bien plus valorisé parce que si le SAV est bon, c'est exceptionnel. En fait, le client, c'est ce qu'il attend. C'est un service, surtout sur. Bah, plus on paye cher, et c'est pareil dans l'électronique. On a un problème avec son produit, on appelle aujourd'hui Darty. Ils sont hyper forts. Avec Darty Max, maintenant, ils proposent des choses payantes, ultra rentables, mais qui te permettent, le jour où tu as un problème, d'être pris en charge dans la minute et de solutionner ton truc à distance et même sur place le lendemain si tu as un problème. Enfin, donc, ça fait partie. Il y a des verticales comme l'électronique, l'automobile qui sont ultra en avance sur ces sujets de gestion du SAV, de maintenance. Là où, effectivement, les verticales qu'on traite sont un peu à la bourre. Et du coup, il faut faire changer les choses parce que c'est des verticales qui malheureusement polluent trop, fabriquent trop. Et il faut les aider dans cette logique de décroissance.
Écoute, merci en tout cas pour toutes ces explications. Je pense qu'on a balayé pas mal de choses de votre sujet, mais est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés que tu aurais aimé préciser ou,
Écoute, on a fait un petit tour. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, voilà, si vous écoutez le podcast, que vous avez des produits à réparer, allez dans vos placards, connectez-vous sur le site de ReFashion qui recense tous les réparateurs labellisés, allez les voir, aidez-les, parce que vous allez les aider à travailler plus. Vous allez payer moins et vous allez prolonger la durée de vie de produits que vous soupçonniez en fin de vie et qui en fait ne le sont probablement pas, que ce soit de la basket, de la chaussure, des produits textiles. Tout globalement se répare, à part les produits mal faits, donc la fast fashion, l'ultra fast fashion. Et si vous êtes une marque, venez nous voir, on peut vous aider.
Génial. Écoute, avant de te laisser, je voudrais te poser ma question de fin de conversation que j'aime bien parce qu'elle me donne plein d'idées de nouveaux livres et de nouveaux podcasts et de nouvelles personnalités à découvrir. Est-ce que tu peux me dire s'il y a eu récemment un livre ou un podcast ou un entrepreneur, ou même pas récemment d'ailleurs, qui t'a particulièrement inspiré?
Alors, je suis pas... C'est marrant, je travaille beaucoup et le temps que j'ai de livre, j'essaie de le passer avec ma famille et les enfants. Donc, je lis pas énormément. Alors, je suis en train de lire un livre qui, je pense, tu dois connaître déjà. C'est le livre de Timothée Paris, Ralentir ou Périr, qui fait un tour un peu de l'économie actuelle, comment elle n'est pas viable et comment on doit aller vers de la décroissance et pourquoi, en fait, la décroissance, c'est pas quelque chose de mal. Donc, c'est assez intéressant. C'est un livre que j'ai commencé il y a une semaine et je pense que tout le monde devrait le lire parce que c'est assez... assez simple à comprendre et en fait c'est évident, on ne peut pas continuer à produire autant, à continuer de produire, à produire aussi mal. Je pense qu'il faut qu'on produise beaucoup moins, qu'on consomme mieux, qu'on consomme moins et voilà, c'est assez, il a réussi à créer un bouquin qui est vraiment abordable pour tout le monde. Il n'y a pas de c'est pas extrémiste, mais je pense que c'est assez intéressant. Donc, Timothée Paric et des entrepreneurs, des podcasts. Podcasts, j'en écoute pas beaucoup. Un petit peu Génération Do It Yourself, le tien du coup depuis un peu quelques temps. Et des entrepreneurs, moi je me nourris de plein d'entrepreneurs. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une façon d'entreprendre. Moi j'ai une manière très particulière d'entreprendre. Je pense que elle n'est pas enseignée dans les écoles et on ne la retrouve pas dans les bouquins. Donc je pense que je me nourris de pas mal d'entrepreneurs. Moi, j'ai un copain que je trouve brillant, avec qui j'ai fait mon école de commerce, qui s'appelle Alexandre Belliti, qui a monté une boîte qui s'appelle Cleany, qui fait du nettoyage dans les bureaux et qui essaye de rendre le métier plus valorisant, plus valorisé et avec un meilleur impact. Donc je pourrais le citer. Et il y en a plein d'autres. Moi, je suis chez 50 Partners, on a pris des bureaux chez 50 Partners, donc j'en côtoie tous les jours. Et je pense que c'est la diversité des entrepreneurs qui fait qu'on peut se nourrir. C'est pas un entrepreneur, il n'y a pas une manière de faire. Alors, il y a des gens qui cartonnent et qui sont inspirants, hein, mais je pense qu'il faut parler à beaucoup d'entrepreneurs pour se faire des idées, avoir sa propre idée d'ailleurs, et ne pas forcément tomber dans des moules.
Écoute, c'est très enthousiasmant comme conclusion à cet échange. J'ai pas forcément envie d'ajouter grand chose, je suis complètement alignée avec ta vision. Et merci pour le partage de ce livre que tu as commencé, que je connais de nom mais que je n'ai pas lu en toute honnêteté, donc ça me, bon, bah, ça je me pense rajoute que un titre sur ma pile à lire.
C'est un livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, et c'est vrai que j'en entendais parler, et il y a une directrice RSE avec qui on parle en ce moment qui en a parlé, du coup je l'ai racheté et je l'ai commencé. Et franchement, je pense que ça a beaucoup de parler.
Ouais. je l'ai vu passer chez pas mal d'influenceuses avec qui on travaille, qui sont des influenceuses engagées dans une transition écologique et qui lisent pas mal de bouquins, qui partagent leur lecture. Et ce livre-là en faisait partie. Donc, écoute, le fait que toi tu le lises et que tu m'en dises du bien, le faire monter en haut en termes de priorité.
Bon bah parfait, trop bien, tu me diras ce que
Génial.
t'en as pensé.
Ouais, avec plaisir. Écoute, Andy, je te souhaite bien du. Je... Pas du courage parce que je te sens vraiment drivée et ce que vous faites est super. Donc, c'est pas du courage, mais en tout cas de l'énergie. Voilà, je te souhaite beaucoup
Fun.
d'énergie pour aborder la suite de cette année. Vous avez beaucoup de défis et de belles choses qui vous attendent. Bravo pour déjà ce que vous avez accompli. Et puis, j'espère à bientôt pour avoir des nouvelles de toutes ces nouvelles marques que vous aurez lancées.
Merci Camille, merci pour l'invitation.
Je t'en prie, à bientôt.
Bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives canon, vous avez le pouvoir de nous aider. Vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux, on adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.